J'aimerais, si vous avez vos Bibles, normalement, vous proposer deux, trois lectures. La première dans l'Évangile de Matthieu, Matthieu 28, verset 18, voici ce qu'il dit. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et puis on arrive à Marc 16, 15, puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Et ensuite, plus loin, Luc chapitre 24, Luc 24, le verset 50, Luc 24, 50, « Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. » Mais avant, au verset 46, il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Simplement en passant, on va aller plus loin encore dans les textes. Je vous rappelle qu'en commençant par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, avec dans le cadre donc des chrétiens amis d'Israël, l'accent est mis sur le peuple d'Israël, sur Jérusalem. Mais vous ne devez pas oublier que lorsque Jésus dit à la Samaritaine, lorsqu'elle apparaît, il dit « Oui, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem ». Et nous, on adore sur la montagne. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne savez pas. Nous, on adore ce qu'on sait, parce que ça lui vient des Juifs. Mais il dit cette chose-là. L'heure vient, et elle est venue. Il faut bien comprendre que la venue du Christ, ce n'est pas pour encourager des hauts lieux un peu à droite, à gauche. La venue du Christ, Jésus dit, l'heure vient, elle est venue, où ceux qui adorent, adorent en esprit et en vérité. Donc, il faut bien vous dire, vient de mettre l'accent sur les prophéties, et c'est clair, mais il faut bien que vous sachiez qu'au fin fond de la brousse, le pygmée qui adore Dieu, il a la même onction que le pygmée que l'autre qui va à Jérusalem. Parce que Dieu a fait un salut aux extrémités de la terre. Alors là, on a un peu parfois la tendance de, si vous voulez, de faire de Jérusalem le haut lieu. Plus tard, oui, pendant le temps du millénium, Jérusalem sera la capitale. Mais actuellement, vous devez bien comprendre aussi qu'il faut avoir un équilibre. Vous connaissez des chrétiens qui se font baptiser dans les eaux du Jourdain parce qu'ils pensent que l'eau du Jourdain est meilleure, etc. Ça, c'est, excusez-moi, mais c'est de la superstition. Jésus dit, l'heure est venue, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pas à Jérusalem, pas à Marie, partout dans le monde. Alors, il est clair que, vous avez des endroits où parfois Dieu se manifeste, il est clair que quand le Seigneur reviendra, Jérusalem sera, d'après la parole de Dieu, la capitale spirituelle. Mais aujourd'hui, le salut est accessible. Vous n'êtes pas obligé de vous payer un voyage en Israël. Vous devez comprendre là le côté un peu qui fait que certains rejettent carrément, si vous voulez, l'accent qui est mis actuellement sur les prophéties parce qu'ils disent les chrétiens, ils exagèrent, ils respectent pas la parole de Dieu, etc., etc. Donc il faut rester bien équilibré et réaliser que, comme nous venons de le lire, que Le message que Jésus a donné, c'est aller prêcher la bonne nouvelle. Commencer par Jérusalem et ensuite continuer Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'a pas dit prêcher pour qu'il faut aller à Jérusalem. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais il dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et puis, vous savez que le message de l'évangile était justement là. Et il est important de bien comprendre que vous allez comprendre où je veux en venir. Ce n'est pas du tout une histoire de critique. Je crois que les choses sont importantes que l'on mais vous devez bien comprendre que la valeur n'est pas tel ou tel lieu d'abord. La valeur du christianisme, c'est votre rencontre, ma rencontre personnelle avec le Messie, avec le Christ, Yeshua, si vous voulez, et ou Jésus, selon les traductions. Mais la rencontre, c'est une rencontre personnelle avec lui. Ça, c'est le critère. Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, hier soir, on entendait, tu seras mon peuple, etc. Oui, plus tard, mais vous devez savoir que le peuple juif ne fait pas partie du peuple de Dieu, du royaume de Dieu, tant qu'il n'est pas né de nouveau. Il y a des promesses pour les nations, il y a des promesses pour les gens, mais pour y arriver, pour qu'ils vivent le chemin, pour qu'ils vivent le salut communautaire, parce que Dieu a dit qu'un jour, il y aura une repentance nationale. Quand le Messie viendra, à cause des tribulations, à cause de tous les problèmes qui vont venir, il y aura un tel brisement, suivi d'une repentance nationale, qu'ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Alors, ils se repentiront. Et alors, il y a la nouvelle naissance. Et alors, il y a l'accomplissement prophétique qui continue. Vous devez bien comprendre que nous devons bien réaliser que seule la nouvelle naissance nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Tu peux être le meilleur juif, tu peux être le meilleur alsacien. Si tu n'es pas né de nouveau, tu iras en enfer. Et ça, c'est extrêmement important de ne jamais l'oublier. D'où l'importance d'avoir, justement, comme on l'a vu, ce travail auprès des juifs, ce travail auprès de ceux qui sont quand même l'olivier franc, qui doivent être regreffés sur leur olivier. Et c'est très, très bien, tout ce travail de témoignage. Moi, pendant que j'écoutais, je me disais, hier soir, je voyais au centre, je trouvais ça très, très bien. Hein, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Et en même temps, j'ai dit, ce serait parfait si nous avions aussi parmi nous des couples, peut-être des hommes ou des femmes, qui s'occupaient aussi des musulmans et des arabes. Alors là, le témoignage de l'Église serait parfait. D'un côté, travail d'action pour les juifs. De l'autre côté, travail d'action pour les musulmans et les arabes. Alors quand j'ai dit ça hier à quelqu'un, il dit, oh, mais tu te rends compte, les arabes, c'est dur, mais les juifs aussi, c'est dur. Mais, et c'est là que j'en arrivais ce matin, mais Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Et c'est de ça que j'aimerais parler ce matin. Donc, voici, j'enverrai sur vous, vous remarquerez, ce que le Père a promis, vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'or. On voit donc le mot d'ordre de Jésus, qui est de prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Les premiers chrétiens, comme vous l'avez entendu, qui étaient juifs, ont eu tendance à rester à Jérusalem, un peu à coucouner entre eux. Hein, parce que Jésus leur avait dit, il faut y aller. Mais eux étaient là. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis la tribulation pour faire sauter ce nid, obligeant ainsi les premiers chrétiens à aller un peu partout pour fuir la persécution. Mais pendant qu'ils fuyaient, ils apportaient partout dans le bassin méditerranéen, ils apportaient l'évangile. Et le plan de Dieu pour vous, pour moi, pour l'Église, pour chacun d'entre vous, que vous soyez, ce n'est pas de rester sur place, ce n'est pas de cultiver la bonne communion fraternelle. Non, il faut ces choses-là. Mais l'objectif principal de Jésus a été aller annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est important. Alors, vous allez comprendre où je vais en arriver. Dans le livre des Actes, vous avez alors le récit de la Pentecôte. Simplement le résumé au chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc maintenant, ses disciples sont sauvés. Jésus, à la résurrection, souffle sur eux. Recevez le Saint-Esprit, il le reçoit, c'est une action d'autorité au travers de la parole des lèvres de Jésus et du souffle, le Saint-Esprit et le souffle. Mais là, ils vont vivre une autre expérience. Par le souffle de Jésus qui les unit à sa vie de résurrection, ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Mais ce qui leur manque, c'est l'Esprit de Dieu sur eux. Et vous allez comprendre où j'en arrivais. Le jour de la Pentecôte, c'est ce qui se produit. Jésus ne leur dit pas, vous recevez le Saint-Esprit pour être sauvés, ils le sont déjà. Mais il leur dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Et ils ont donc attendu, pendant la Pentecôte, ils ont attendu pendant 10 jours. Probablement, je ne sais pas s'il y en a qui jeûnaient, il y en a qui étaient ensemble, probablement aussi, ils purifiaient leur cœur, ils nettoyaient leur vie, leur conscience. Ce n'était pas une technique, vous devez comprendre. Pour cette expérience, qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, dans le livre de l'Acte, au chapitre 1er, Jésus leur dit, vous, dans peu de jours, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, en Samarie, etc. Donc, si vous voulez, cette expérience-là n'est pas quelque chose que vous, comme ça, petit truc, c'est le résultat d'une faim, c'est le résultat d'une soif de Dieu, c'est le résultat d'une recherche de Dieu. Bon, nous, on prend l'histoire de Corneille. Un peu plus loin, vous avez le récit de Corneille dans Acte 10, à Césarée. Corneille reçoit la visite d'un ange. Il fait appeler Pierre, et quand Pierre rentre dans la pièce, dans Acte 10, il commence à parler, et pendant qu'il parle, l'Esprit de Dieu descend sur eux, ils sont baptisés du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, comme les disciples au départ. Et Pierre leur dit, puisqu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu comme nous, pouvons-nous empêcher qu'ils soient baptisés d'eau comme nous au commencement? Parce que les Juifs ne rentraient pas dans les maisons. Pierre a enfreint ce légalisme religieux. Pierre a enfreint, il a dit, vous savez vous-même que ce n'est pas permis à un juif d'aller de manger, etc. Mais Dieu m'a appris à considérer les choses comme étant pures. Et pendant qu'il parle, boum, le Saint-Esprit descend et puis c'est encore l'explosion. Vous avez un peu plus loin encore, dans Acte 19, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces, arrive à Éphèse et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il est un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent, du baptême de Jean. C'est-à-dire, repentez-vous, baptême d'eau. Alors Pierre leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentant, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlèrent en d'autres langues et prophétisaient. Ils étaient en tout 12 hommes. Vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y avait pas beaucoup de bruit. Alors, je vais vous dire où j'en arrivais. Lorsque nous nous convertissons, la nouvelle naissance est incontournable. Quelles que soient les promesses, quelles que soient les expériences que tu as pu faire dans ta vie avec le Seigneur, tu as peut-être reçu des réponses à la prière, tu as peut-être même été touché dans une vague de l'esprit qui agissait dans l'auditoire, tu as été touché, tu as peut-être pleuré, tu as peut-être senti quelque chose, ok. Mais ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Ça veut dire que tu as goûté à quelque chose du royaume de Dieu. Tant que tu n'as pas cette expérience concrète de la nouvelle naissance, tu peux chanter tes cantiques, tu peux faire tout, mais tu n'es pas né de nouveau. Tu as peut-être la religion, et ça explique que beaucoup, à un moment donné, en ont marre, lire la Bible, aller à la réunion, évangéliser, en est marre, c'est-à-dire, et on parle de légalisme, alors ils disent, mais il faut que le chrétien, il vive comme tout le monde, comme les païens, il peut aller en boîte, il peut aller s'amuser. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux, c'est au fond, ils n'ont pas reçu un cœur nouveau. Ils sont encore attachés aux choses anciennes. Il y a des mélanges avec certaines expériences qu'ils font avec Dieu, mais leur cœur n'est pas changé. Et la promesse de la nouvelle alliance, c'est Jésus a dit, la parole de Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Donner un cœur nouveau, c'est-à-dire qu'on a de nouvelles choses, de nouvelles affections, d'autres choses auxquelles on est attiré. On aime autre chose. Si vous avez un cœur nouveau, vous aimez autre chose. L'apôtre Jean dit, n'aimez pas le monde. Parce que si vous êtes né de nouveau, vous n'aimez pas le monde, vous aimez Dieu. Donc, on voit beaucoup de chrétiens qui ont des luttes incroyables. Bon, ils font de la relation d'aide, ils font de la délivrance, etc., etc. Mais bien souvent, le problème n'est pas là, parce qu'on ne pouvait pas délivrer le vieil homme, il faut qu'il passe par la mort. Le problème est tout simplement de naître de nouveau. C'est important de le comprendre. Alors, on va arriver donc dans ce mot d'ordre. Jésus dit, et si je peux vous laisser ça, un peu de temps que nous avons, voilà, 20 minutes, vous laissez maintenant ça. Le mot d'ordre pour nous les chrétiens, c'est clair, c'est aller dire aux autres ce que le Seigneur vous a fait. Si je n'ai rien vécu, comment voulez-vous que j'aille dire aux autres ce que je n'ai pas vécu? Donc vous voyez, on revient toujours à nouveau sur l'expérience personnelle, sur le témoignage personnel. En un mot, si je résume l'ensemble de tout ça, si vous êtes né de nouveau, vous savez que 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 Dieu est votre Père. Et que vous êtes aimé de Dieu. Vous n'avez peut-être pas une révélation extraordinaire de l'amour de Dieu, mais vous le savez. Vous savez que Dieu est devenu votre Père. Parce que l'Esprit de Dieu, au fond de vous, atteste que vous êtes enfant de Dieu. Vous avez donc le témoignage intérieur qui est ensuite complété. Mais ce que j'aimerais dire, et c'est, je crois, que le grand, grand problème, c'est que nous oublions que Dieu ne s'arrête pas là. Dieu, le but de Dieu, la vision de Dieu, c'est pas que tu sois sauvé, né de nouveau. Dieu ne vient pas seulement, Jésus n'est pas seulement venu pour nous sauver, il est venu pour nous transformer. Et tu ne peux pas te transformer. Essayons, on parle beaucoup de crucifixion. Crucifiez-vous vous-même, prenez la première main, ok, la jambe, là, mais la dernière main, comment vous allez faire pour vous crucifier? C'est pour cette raison que Dieu a prévu les frères et sœurs pour... vous savez, la sœur Marteau, le frère Clou, hein, la sœur Si, et le frère, je ne sais pas, Boomerang. Hein, bon, alors, si vous voulez, donc, Dieu nous a placés dans le corps pour que l'action mutuelle des uns sur les autres nous amène à la croix. Et quand tu souffres à cause du comportement d'un frère, quand tu souffres à cause de la mauvaise attitude d'une sœur, tu as deux possibilités. Et c'est ça la crucifixion. Tu peux râler, tu peux sortir le bazooka, tu peux faire une division, tu peux rouspéter, maugréer. Ça, il n'y a pas besoin de l'esprit pour faire ça. Ça vient tout seul, vous avez remarqué. Mais accepter de crucifier la chair, c'est renoncer à cette animosité. C'est pardonner, c'est supporter, c'est bénir ceux qui vous font du mal. Ça, c'est pas humain. C'est de la folie dans la logique humaine. Mais c'est la puissance de Dieu en action pour ceux qui veulent rentrer là-dedans. Et l'Église est remplie, Paul écrira aux Corinthiens, que toute amertume, jalousie, rivalité, que tout cela soit élevé, enlevé au milieu de vous. C'est que ça existait, vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La vieille nature, la chair, elle est toujours la même, quelle que soit la nationalité, parce que c'est la nature de péché que nous avons hérité de nos pères. Mais Paul nous dit, attention, renoncez, renoncez. Et la crucifixion, c'est accepter de renoncer à quelque chose qui peut être mon caractère, un trait de caractère, quelque chose auquel j'ai envie, mais je sais que Dieu n'est pas d'accord. Et ça fait mal. Ça fait mal de renoncer à une certaine chose. Ça fait mal de pardonner à quelqu'un qui vous marche vraiment sur les pieds et qui insiste lourdement. Ça fait mal. Ça fait mal de voir un gars qui prêche ou une femme qui prêche ou vous prophétise, etc. Et vous dites que par derrière, elle vous fait les 400 coups. Ça fait mal. Je ne dis pas qu'il faut tout laisser faire dans l'Église. C'est pour ça qu'il faut des surveillants, il faut des ministères, il faut des anciens pour surveiller, pour agir avec sagesse. Mais l'autre jour, je discutais avec quelqu'un qui me dit, moi, l'Église, c'est la vraie pétodière. Les gens, ils font n'importe quoi pendant la semaine. Le dimanche, ils prophétisent, et patati, et patata. Il dit, il y en a marre, moi, je vais faire un scandale. Parce qu'il dit, bon, il y en a qui sont au courant des affaires, et après, ils passent. Il fallait discuter. J'ai dit à cette personne, mais... qu'est-ce que dit le Seigneur? Est-ce qu'il dit quand quelque chose ne va pas, bam, 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 on tire plus vite que l'ombre avec comme Lucky Luke? Ou est-ce que devant, on pardonne, on voit comment on peut faire, dans la douceur, dans la patience, parce qu'on peut se tromper parfois dans nos diagnostics. On prie pour les autorités, on ne sort pas l'épée pour faire une révolution, une cinquième colonne. Pourquoi? Parce que nous sommes ouvriers de paix. Pas facile entre procurer la paix autour de nous et ne pas laisser tout faire. C'est vraiment pas facile. Hein? Mais je vous montre que ce qui est important dans ce que je vais vous montrer ce matin, c'est qu'il faut d'abord que je sois né de nouveau. Et maintenant, j'aimerais appuyer. Quand l'Esprit de Dieu vient habiter en vous, vous le savez, que vous le savez, que vous le savez. Pour certains, ça se fait progressivement, mais le résultat, à un moment donné, est stable. Certains, c'est d'un coup le chemin de Damas, boum, paf. Mais la vie chrétienne, le départ, je voudrais bien préciser, le départ de la vie chrétienne ne s'arrête pas là. Parce que beaucoup ont la tendance, parce qu'ils sont nés de nouveau, bien maintenant, j'aime le Seigneur, c'est normal, et maintenant, je vais le servir. Et vous remarquez qu'ils le servent comment ? avec leur force humaine, avec leur intelligence humaine, avec leur capacité humaine. Alors que Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Et c'est avec celle-là qu'il faudra travailler. Ce n'est pas avec la vôtre qui est quand même viciée par le péché, l'orgueil. Vous remarquez, quand quelqu'un est, même dans les choses de Dieu, vous voyez, quand quelqu'un attire la couverture à soi. Ça se voit, ça se sent pour ceux qui ont un peu d'expérience. Mais Jésus dit non. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc nous sommes témoins de sa puissance et par sa puissance. Et ce n'est plus l'Esprit de Dieu en nous, c'est l'Esprit de Dieu sur nous. Le Saint-Esprit te couvrira. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, semblable à des langues de feu, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, action de puissance, plus action de régénération, mais action de puissance. Et alors, les dons sont communiqués, parler en langue, etc., etc., etc. Mais le résultat de cette réception de la puissance, c'est les dons. Ce n'est pas des dons que tu utilises comme une technique avec ta sincérité. La parole de Dieu nous demande de prier, d'aspirer aux dons spirituels. Donc c'est Dieu qui les donne, c'est le Saint-Esprit qui les distribue. Donc si je ne les ai pas, il ne faut pas que je fasse comme si je les avais. Mais si je ne les ai pas, il faut dire que j'en ai pas, donc je ne bouge pas. Et non, prie, cherche, aspire. Celui qui parle la langue, prie pour avoir le don d'interprétation, aspire au don de prophétie. Vous voyez, Dieu nous stimule, nous avons notre part à faire pour ce revêtement, pour cette communication. Parce que quand tu as le revêtement à faire, Dieu, rappelez-vous l'autre jour, pendant la semaine de Déviance, on a dit le plus grand problème des chrétiens, c'est la passivité. On attend que Dieu fasse alors que Dieu te dit, tu as reçu mon esprit, tu as reçu ma vie, maintenant vas-y, saisis par la foi, aspire, prends par la foi, exerce. Vas-y, allez. Jésus a dit, allez. Et alors, si vous voulez, il faut s'exercer. Ça va être un démarrage. Quand j'ai connu le baptême du Saint-Esprit, c'était au 400 couverts. J'avais 25 ans, 24 ans. Et je priais, j'avais amené une collègue de travail. Elle était devant, elle priait pour le baptême du Saint-Esprit. J'étais derrière, j'avais un peu baragouiné un peu. On m'avait dit, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le parler en langue qui tu peux baragouiner. Et moi, j'avais cru, on m'a dit, mais non, tu as parlé en langue, parce que j'essayais en parlant, j'essayais d'être baptisé du Saint-Esprit, mais j'aime pas. Je baragunais, oui. Je n'étais pas baptisé. Et quand, à un moment donné, je me rappellerai toujours, c'était donc les candidats au baptême du Saint-Esprit se mettaient devant, et nous, les chrétiens, baptisés du Saint-Esprit, nous, on était derrière. Et je me rappelle, à un moment donné, je me suis levé pour prier à haute voix pour cette personne. Et au moment où je prie à haute voix, Seigneur, baptise-la du Saint-Esprit, le ciel s'est ouvert et l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Là, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je pensais français, je gardais le contrôle, je n'étais pas passif, je n'étais pas dans les vapes, je n'étais pas un médium, je n'étais pas en train de faire de la méditation. C'était ma personnalité toute entière qui était remplie du Saint-Esprit, une acuité intellectuelle, une force spirituelle. Vous recevrez une puissance, a dit Jésus. Et je pensais français et les paroles qui sortaient étaient en langue. Je suis sorti de cette réunion, j'avais l'impression de marcher sur des nuages. Vous recevrez une puissance. Je me rappelle, après, il y avait des luttes de la vie passée, des combats spirituels, on était dans un camp de jeunes, et puis là aussi, une fois un soir, quand c'est renouvelé dans l'esprit, parce qu'on est baptisé une fois, mais on est renouvelé, on peut être renouvelé à plusieurs reprises, et toute notre vie, nous avons besoin de renouvellement. Eh bien, je me rappelle, dans un camp, on était là, et tout à coup, la pluie est tombée sur la tente, et au moment où la pluie a commencé à marteler la tente, l'Esprit de Dieu est descendu sur nous. Bah, rempli, on louait, on chantait en langue. Il y avait la moitié des jeunes qui étaient là, c'était un camp de jeunes, ils ne comprenaient pas, ils nous regardaient complètement ahuris. Et nous, de les voir ahuris, on rigolait. Vous savez, le fou rire, ça commençait déjà à cette époque-là, on n'a pas attendu Toronto. On rigolait, ils étaient parfois en colère, et nous, plus on les voyait en colère, plus on rigolait, ils pensaient qu'on se fichait d'eux. Mais après, il a fallu témoigner dans un village de Fraissinière, Vallée Vaudoise, je me rappellerai toujours, on m'a demandé de témoigner, vous savez, ça sortait des fleuves sortaient, parce que quand l'Esprit de Dieu vient sur vous, et il vous remplit, il vous équipe de puissance, alors des fleuves d'eau vive, une puissance de vie. C'est une puissance qui sort de vos entrailles, qui sort de votre corps. Ce sont des fleuves d'eau vive qui sortent de vous. Quand vous parlez, mais parfois ça sort de vous quand quelqu'un vous touche. Rappelez-vous, la femme atteinte d'une perte de sang, elle touche le vêtement de Jésus, une force sort de Jésus, paf, ça c'est la puissance. Et vous devez comprendre que tout le reste, c'est des efforts humains, sincères. Mais ça vous explique pourquoi beaucoup sont fatigués, beaucoup ne tiennent pas le coup, pourquoi il y a beaucoup de gens qui font des crises cardiaques, pourquoi il y a beaucoup qui font de la déprime, de la dépression, parce qu'ils aiment le Seigneur. Mais parce qu'ils n'ont pas vécu ce revêtement puissant, ils se fatiguent dans les luttes intérieures, ils se fatiguent dans les combats, et puis ils s'usent. Et ils font de la déprime. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Et il ne faut pas non plus là pleurer, faire, oh, moi je ne l'ai pas eu, moi je ne Dieu même pas. Non, tu ne l'as pas eu, il ne faut pas en faire un plein. Tu ne l'as pas eu, ben c'est une excellente occasion de te mettre dans la prière. Rappelez-vous, dans le jour de la Pentecôte, c'était 10 jours qu'ils ont attendu. On ne vient pas comme ça, parce qu'on a, écoutez, je regarde une émission à la télé, puis je viens à la réunion de prière, et je dis, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Franchement, vous allez attendre, à part miracle, parce que Dieu fait des grands miracles, mais vous allez attendre pendant la Saint-Clinclin, si ça existe. Pourquoi? Parce que ça se prépare, votre cœur se prépare à pouvoir recevoir. Votre cœur se prépare en vous purifiant de toutes les pensées du monde, pour que votre foi soit libre, pour que rien ne vienne faire obstacle à votre foi. Vous connaissez ce... Le frère, il était boucher, apprenti ou ouvrier boucher. Il y a une réunion, qu'on appelait une réunion d'attente, baptême. Et pendant qu'on était là, qu'on priait, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit, il voyait toujours une énorme saucisse qui était là, une saucisse. Ah, il dit, mais qu'est-ce qui se passe une saucisse, cette saucisse? Et puis il a compris. Dans son travail, il fauchait des saucisses à son patron. Si ta vie n'est pas en ordre, si vous êtes un chrétien qui n'a pas la vie en ordre, qui jongle, parce qu'il y en a beaucoup qui jonglent, regardez Ananias, Sapphira, ils viennent à cette époque-là, vous savez, Dieu, il a installé l'église, donc il ne laissait pas passer les choses. Ils ont menti. Aujourd'hui, on peut mentir, je connais des chrétiens qui ont menti pendant des mois au sein de l'église dans leur comportement. Mais quand ça vient, plus personne ne peut rien pour vous. C'est fini, vous êtes fichu. Le châtiment tombe. Alors vous pouvez aller en onction d'huile, prière, pleurer, gémir, Seigneur, Seigneur, on ne méprise pas Dieu. Mais dans les temps d'attente, on prépare son cœur. Seigneur, tu vois, j'ai besoin d'être ma vie en ordre. Qui peut dire entre nous qui n'a jamais péché, peut-être vous? Bon, Seigneur, je te demande pardon, me réfugie à nouveau dans le sang de Jésus, dans la grâce de Dieu, dans la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et je viens dégagé de toute culpabilité, je viens libre. Non pas pour servir maintenant Dieu, mais pour recevoir sa puissance, être relevé dans sa puissance, dans le culte personnel, mais aussi parfois dans le culte communautaire, où l'Esprit de Dieu peut descendre. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas descendre si l'Église est remplie de gens qui traînent des problèmes, qui n'ont pas réglé dans la transparence. Dieu ne nous demande pas d'être des super saints, Dieu nous demande d'être des super saints par la foi, en purifiant nos cœurs, de tout ce que nous pouvons faire de travers, parce que le sang de Jésus ne marche que si nous marchons dans la lumière. Et là, beaucoup n'ont plus la crainte de Dieu. On dit, bah oui, ça marche, il y a des gens qui font n'importe quoi, ils sont bénis comment? Ils sont bénis humainement, oui. Ils sont bénis, mais tu es réellement béni, non pas parce que tu as du succès matériel, tu es béni si ta stature intérieure grandit dans la ressemblance de Jésus. C'est ça, la prospérité. Parce que des païens peuvent être très riches. Il y a des chrétiens dans le péché qui peuvent être très riches. Mais la vraie bénédiction, c'est Christ en toi, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Et vous avez des gens qui sont parfois été mis à mort, n'ont pas toujours été protégés, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont tenu le coup. Ça, c'est la richesse. Pas lâcher, pas abandonner quand ça ne va pas. La véritable richesse, c'est Christ en nous, dans une réelle action du Saint-Esprit. Mais il y a aussi la puissance sur nous. Et ça, j'aimerais insister sur cela. Regardez voir, Paul arrive à Éphèse et il voit des disciples de Jean, donc des gens. Il dit, mais vous avez été baptisés, baptême de Jean, donc baptême de repentant. Bon, mais il dit, Jean a annoncé le baptême de Jésus. Hein. Bon, il est baptisé au nom du Seigneur Jésus, parce qu'il fallait que par le baptême, il soit uni dans sa mort, uni dans la résurrection du Christ. Le centre, c'était Christ. Mais après, il leur impose les mains. Vous voyez, ils ne se contentent pas, ces gens-là ont cru, sinon ils ne se seraient pas fait baptiser. C'est parce qu'ils étaient sincères qu'ils ont accepté de se faire baptiser dans l'eau. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il leur impose les mains et quelque chose se passe. Voyez, nous, après les baptêmes, on impose les mains. C'est plutôt un geste prophétique. Mais ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand tu le reçois, tu le sais. Ce n'est pas de l'autosuggestion. Ah oui, je ne sais pas si je l'ai, je ne sais pas. Non. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Quand tu la reçois, tu le sais. Si tu ne l'as pas reçue, sois suffisamment humble pour dire, mais moi, je ne l'ai pas. Moi, je ne l'ai pas parce que, figurez-vous, c'est cette puissance-là qui permet ensuite aux dons spirituels de se développer. Prophétie, discernement d'esprit, guérison, etc., etc. Parler en langue, interprétation des langues, etc. Vous recevrez une puissance. Et pourquoi les dons spirituels sont axés là-dessus? Parce que ça devient les nouveaux outils. Avant d'être baptisé de la puissance, vous vous dites, mais il faut que j'aime le païen, il faut que j'aime le gars, il faut que j'aime la personne. Ça, c'est le sentiment. Il faut toujours le faire. Mais vous remarquez, vous pouvez aimer quelqu'un sans qu'elle change. Parce qu'il vous manque quelque chose, parce qu'il manque quelque chose. La puissance. Puissance dans la prière, puissance dans la louange, puissance dans les dons spirituels, puissance dans le témoignage, dans les paroles, dans le comportement. Puissance sur moi, un environnement sur moi. Le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est un revêtement. C'est un revêtement qui non seulement te remplit comme une bouteille, l'image très simple, vous prenez une bouteille vide, vous la trempez dans l'eau, vous l'immergez dans l'eau, ça fait glou, 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 glou. La bouteille se remplit d'eau, et le glou, glou, a dit quelqu'un, c'est comme le parler en langue qui sort de l'irruption de la plénitude en vous. Je ne sais pas si c'est bien comme image, mais en tout cas, vous devez être rempli. Il n'y a pas seulement l'Esprit de Dieu en nous, il n'y a pas seulement la nouvelle naissance. Je termine en disant simplement, écoutez, ne vous laissez pas de repos. Je pense que beaucoup de personnes ont des problèmes, des luttes, des combats. Mais je veux vous rassurer, vous n'êtes pas les seuls, et les gens ne sont pas les seuls, on en a tous. La seule chose, c'est que nous, on s'assoit, on pleure, on dit Seigneur, ou alors, tu as vécu la manifestation de la puissance, et dit, bon, ça ne va pas m'arrêter. Ça ne va pas m'arrêter, pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans l'autre. Donc tu ne vas pas perdre ta combativité par tes problèmes. Au contraire, dans cette vie de puissance, tu vas apprendre à faire tourner, à permettre à Dieu de faire concourir toutes choses pour ton bien. Chaque problème que tu vas rencontrer va être comme une marche d'escalier qui te fait monter de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu. Mais pour ça, tu as besoin de la puissance. Et je voudrais vous lire, pour conclure, le réveil de Pentecôte, tel qu'il s'est passé en France. Il y a des années en arrière, avec un orateur, un couple de Gallois, Douglas Scott et sa femme, qui sont venus en France pour apprendre le français, pour ensuite aller en Afrique. Et ils ont commencé à faire des réunions dans une auberge de tempérance au Havre, et il a commencé à y avoir des miracles, des guérisons. Et je vais vous lire, je vais vous montrer ce que c'est que l'Évangile, simplement vécu. Alors je vais vous le lire. Bon, plusieurs frères m'ayant demandé de donner le récit du commencement du réveil de Pentecôte depuis la Normandie jusqu'au midi de la France et en Algérie, après beaucoup d'hésitations et de prières, j'arrive enfin à prendre ma plume pour le faire. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui a été fait, parce que c'est l'Esprit Saint qui a tout accompli. Voilà. Ah, alors voilà ce qu'il dit. Notre appel. Notre appel fut vraiment un appel surnaturel. Comprenez là... On est tous chrétiens, mais on n'est pas forcément appelés pour telle ou telle chose. Notre appel fut vraiment un appel surnaturel. Nous avions devant nous deux portes qui semblèrent être ouvertes, la France et l'Algérie. L'appel pour la France est venu parce que M. Burton, missionnaire pionnier du Congo, s'en était allé au Havre en 1927 pour nous perfectionner dans la langue française. C'est là que je rencontre l'œuvre évangélique en France pour la première fois. Madame Biolay, chrétienne ardente et convaincue, m'avait proposé de venir passer quelque temps au Havre avant de partir plus tard pour l'Afrique. C'était la propriétaire de l'auberge de tempérance. Nous prions donc en demandant au Seigneur de nous montrer clairement notre chemin et acquis la conviction que c'était vers la France que Dieu nous dirigeait. Mais Dieu, dans sa bonté, confirma son appel par un message en langue interprété par M. Howard Carter, qui était en ce temps le principal de l'école biblique des Assemblées de Dieu à Londres. L'Esprit Saint nous disait « Passez par la porte qui est devant vous et plus tard, je vous ouvrirai la seconde porte. » Nous remercions le Seigneur pour cette confirmation donc, qui fut scripturaire et biblique. Mais voilà qu'un professeur de l'université de Cambridge se leva dans la salle pour donner une deuxième confirmation. Je viens d'entendre un jeune homme, c'était moi, qui a parlé en arabe littéraire. J'ai contrôlé l'interprétation, qui ne fut pas une traduction mot à mot, mais une interprétation de la pensée qui était exprimée dans la partie en langue, dans le parler en langue. Fort de cette confirmation de la part du Seigneur, nous débarquâmes au Havre le 1er janvier 1930. Le parler en langue, pas simplement de la glossolalie, le parler en langue, et nous devons redévelopper ça au milieu de nous, c'est aussi parler des langues étrangères que nous n'avons jamais appris, mais que des personnes dans l'auditoire vont reconnaître. Dieu avait déjà préparé le terrain par la prière ardente de chrétiens qui avaient demandé un réveil spirituel pour la Normandie et la Bretagne depuis tant d'années. À la toute première réunion, Dieu guérit un gazé de guerre. Au fond de la salle, se trouvait un cheminot qui, ayant vu le miracle, alla en parler au dépôt de chemin de fer. Une deuxième miracle, également instantané, fut signalé, celui d'une femme percluse, qui reçut immédiatement la délivrance et l'usage de tous ses membres. Elle put rentrer chez elle à pied. Nous n'avons jamais fait de propagande par prospectus dans la ville du Havre, car la manifestation de la puissance de Dieu pour guérir les malades était tellement grande que les guérisseurs perdaient tous leurs clients. Nous ne connaissions que très peu la langue française, mais l'Esprit Saint faisait son œuvre et bientôt nous eûmes la joie de voir des conversions sincères, des personnes se préparer au baptême d'eau et aussitôt après recevoir le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Il y eut des guérisons remarquables, telles que la délivrance d'une jeune fille possédée d'un esprit de surdité, mutisme, folle et épilepsie. Une autre, qui avait jusqu'à 28 crises par jour, fut également libérée de ce démon par le Seigneur. Que dirons-nous des sourds, des paralytiques et bien d'autres infirmes qui trouvèrent auprès du Seigneur la délivrance totale, des cancers, des tumeurs et des excroissances de chair de toute espèce ont été détruites devant nos yeux. Une dame mourant d'un cancer en 1930 était toujours en vie en 1960 lors de notre dernière visite du Havre, que Dieu en soit béni. C'est pendant ce réveil que notre frère, M. Gallis, reçut un puissant baptême du Saint-Esprit avec les dons spirituels nécessaires pour son futur ministère, et ce fut entre ses mains que nous confiâmes cette nouvelle œuvre lors de notre départ vers la fin de l'année. Continue, mission Picardie. Après avoir remis l'œuvre du Havre entre les mains de notre bien-aimé frère Galice, Dieu nous dirige vers la Picardie, où nous eûmes une première mission dans l'Assemblée baptiste de Chauny, où Dieu bénit tellement ou richement, malgré l'opposition très forte des jeunes gens envoyés pour déranger les réunions. Seule une chute de neige à la fin de la dernière réunion nous évita une vraie bagarre. De là, certainement dirigés par l'Esprit Saint, nous allâmes vers la ville de La Fère, où notre frère Pierre Nicole était pasteur. Les débuts furent durs, car on avait prévenu notre frère contre la Pentecôte. Et ce fut une grâce que le Seigneur accorda à notre cœur. Aimée Nicole, la femme donc, fut baptisée du Saint-Esprit. Cela nous donna le courage de continuer la mission. Quand nous avons vu le bureau de notre frère, quand nous avons vu sur le bureau de notre frère Nicole, la Bible toujours ouverte, je résume là, ils ont compris qu'ils vérifiaient par les Écritures tout ce qu'ils entendaient, et ils ont su que cet homme-là était un homme de Dieu. Effectivement, Nicole, qui était baptiste, est devenue le pilier au niveau de la connaissance biblique, la structure des assemblées de Dieu en France à cette époque-là. Quelques temps plus tard, nous fûmes invités à faire une courte réunion à Saint-Quentin. Gloire à Dieu pour cette période. Le frère Pierre Nicole fut baptisé du Saint-Esprit. Ce fut à ce moment-là que Dieu choisit l'homme qui devait être le pilier de son œuvre dans la Normandie. Sa connaissance de la parole de Dieu, son esprit organisateur et sa pensée toujours claire et lucide ont permis l'affermissement de la petite œuvre de Rouen qui est devenue, sous sa direction, le centre de réveil pour la Normandie. Lorsque plus tard je fis part aux amis du Havre de mon désir d'aller évangéliser la ville de Rouen, ils me firent comprendre toutes les difficultés que nous allions avoir. Nous avons distribué 2000 prospectus dans les rues de la ville et seulement quelques personnes vinrent aux premières réunions. Mais le Seigneur, en guérissant les malades, en délivrant les possédés, nous permit de voir la petite salle rue Saint-Nicolas se remplir. Nous avions au moins 5 évangélistes pour aller aider. Nous portâmes nos efforts dans le centre, à Darnétal et à Sotteville, avec André Nicole, Arthur Marais, O'Falk, Madame Scott et moi-même. C'est grâce à la foi et à la bonté d'un foyer chrétien que nous avons pu tenir avec nos ressources excessivement limitées. Elles nous ont nourris tous pour une somme très modique et Dieu a totalement béni matériellement notre sœur et son mari après ce grand acte de foi. Nous avions des appels pressants de Suisse, de Privas, de Nîmes et c'est vraiment dans le plan de Dieu que nous avions fait appel à notre frère Pierre-Nicole pour prendre le relais donc de cette œuvre. La Bible nous dit « Ne méprisez pas les petits commencements » et c'est grâce aux réussites de nos missions à Privas et dans le midi de la France que nous avons pu aider matériellement cette œuvre, aide qui nous a été remboursée complètement quelques temps plus tard. Alors bon, je vais faire un peu vite. Dans le nord de la France, entre-temps, nous avions eu une mission dans la ville de Liévin. Durant cette mission, il y eut des signes, des prodiges et des miracles. C'est de là que notre frère Arthur Marel partit pour Calais pour poser les jalons de l'Assemblée de Dieu dans cette ville et un peu plus tard dans la ville de Lille où il resta assez longtemps. De ces combats, de ces difficultés, de ces victoires, nous ne pouvons pas vous en parler avec une plus grande connaissance, mais certes, l'appui moral du pasteur Nick de Lille, bien connu pour sa haute spiritualité et sa générosité, a été pour nous une grande aide pour l'établissement de notre œuvre. Bon, alors, aller un peu plus. Roubaix, et bon, je saute, Roubaix, la mission, ils arrivaient même dans des églises protestantes, ils n'avaient pas de moyens, pas de culture, parlaient mal le français, priaient pour les malades, guérison, miracle, délivrance, et pas de la petite gnognotte, pas un petit mal de tête, hein. Ok. Dans les églises réformées, le frère de Lattre de Privas nous invita pour une mission de longue durée, 3 semaines. Tout le monde lui disait, après 4 jours, il n'y aura plus personne. Ces gens ne connaissaient pas le mouvement du Saint-Esprit. Après 2 semaines de réunion, la foule en dehors était plus nombreuse que l'assistance dans la petite chapelle. Avec le consentement du consistoire, le grand temple fut ouvert. Et c'est là, avec le temple plein à craquer, que la mission se termina. Là, ils continuent. Et puis ensuite, ils ont ouvert systématiquement dans toutes les localités. Arrivaient, prêchaient, guérison, miracles, prodiges, et des gens se convertissaient, des gens étaient baptisés du Saint-Esprit. En Suisse, peut-être faut-il parler en même temps de la mission à la Chaux-de-Fonds, en Suisse, pour qui commença dans le théâtre et qui se termina dans le plus grand temple de la ville, Archicomble. C'est dans cette mission que nous avons pris contact avec le frère Thomas Bresse et sa compagne, et ce fut qui est devenu le pasteur à Nice. Et ce fut certainement dans le plan de Dieu, plus tard, il vint en France pour apporter à toutes nos assemblées le bénéfice du ministère que Dieu lui a donné en tant que docteur. Alors il continue, dans le Midi, les frères nous ont demandé de donner quelques détails du commencement du réveil dans le Midi de la France, qui a débuté dans la ville de Marseille. Nous n'avions aucun soutien financier. Nous distribuâmes 100 000 tracts, prospectus, et 20 personnes vers à la première réunion. Il fallait beaucoup de courage pour tenir, mais bientôt Dieu nous donna une salle en plein centre-ville. Il y eut des guérisons miraculeuses parmi tant d'autres. Madame Bassot guérit d'un cancer, Madame Julbert guérit de cavernes dans les 2 poumons et plusieurs paralytiques, des sourds, voire même des aveugles ont été délivrés. Et continue. Bon, à certains moments, nous étions 6 à travailler à l'œuvre de Marseille. Et puis ils ont continué dans toutes les villes qu'il y a là, où il y a aujourd'hui des assemblées de Dieu. Ensuite, il est parti en Algérie. Et ensuite, avec sa femme, ils sont allés au Congo. Pareil, bon, miracle. prodiges, etc. Et ils sont revenus en France. Je voulais vous dire que Grenoble a été implanté par le pasteur, par le pasteur Scott. Et Madame Lambert pourra vous parler, comme son mari, qui était un athée, a été guéri, justement, à une imposition d'Evan Scott. Je m'arrête là parce que le temps a été écoulé. Mais je veux simplement vous dire, il nous faut revenir à ça. Ce n'est pas avec nos efforts, avec notre transpiration, c'est avec la puissance. Non pas par la force, mais par ton Esprit Seigneur. Donc, regardez, je propose de venir, vous savez que le dernier dimanche du mois, nous avons à 18h, le soir, louange et baptême du Seigneur. Ils sont en train de se passer des choses étonnantes. Alors, je vous invite à venir, si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, mais vous pouvez l'être dans le culte, vous pouvez l'être chez vous, tranquillement. Je n'ai pas le temps de donner des détails, mais aspirez. Demandez au Seigneur, ne restez pas dans votre faiblesse, dans vos limites humaines, vous recevrez une puissance. Amen.